Chapitre 12. Didier raccrocha et garda les yeux rivés sur la psychiatre pendant qu'elle rangeait son portable dans sa poche. « Comment connaissez-vous ce nom ? » demanda-t-elle soupçonneuse. « C'était mon père biologique. » « Harry D., le tueur en série ?»« J'avais 1 an quand il est mort. » »« On ne peut pas dire que je l'ai vraiment connu. Disons plutôt que j'ai découvert qui il était en grandissant. » »« J'ai vu le journal de ce matin, commandant Warren. » L'article sur le meurtre de lundi soir. Je n'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions. Didi continua d'observer sa thérapeute. Adeline se tenait à la frontière entre les deux pièces, apparemment toujours aussi sereine et maîtresse d'elle-même. Pantalon dans les marrons feutrés, pull à col roulé en cachemire, couleur groseille. Ses cheveux bruns mi-longs étaient lâchés aujourd'hui et s'illustrait par le brossage qu'il rappelait presque le cuir de ses bottines de luxe. Même à 40 ans, cette femme à la silhouette impeccable et qui collectionnait les diplômes ressemblait davantage à un mannequin Anne Taylor qu'à la fille d'un célèbre tueur en série. « Il va falloir qu'on se parle », dit Didi en se rapprochant. Le médecin regarda sa montre. « Il vous reste 10 minutes. » « Pas sur mon temps de rendez-vous, sur votre temps à vous. » Adeline se contenta de hausser les épaules. « Franchement, commandant, à part son nom, il y a très peu de choses que je puisse vous dire sur Harry D. »« Allons, allons, docteur. Vous avez votre domaine d'expertise, j'ai le mien. On y va ?» Didi désignait le saint des saints. Après un nouveau haussement d'épaules, Adeline battit en retraite et Didi lui emboîta le pas. Celle-ci réfléchissait à toute allure et reconfigurait ses attentes. Étant donné l'aspect rituel des deux meurtres, elle se disait bien que la consultation du fichier VICAP pourrait donner quelque chose. Mais rapprocher la série de meurtres en cours d'une autre série vieille de 40 ans, dont l'auteur était mort et enterré depuis des lustres, c'était plus une complication qu'un progrès. Et s'il avait fait un émule ? Dieu sait que, par les temps qui courent, les tueurs en série ont davantage d'admirateurs que la plupart des vedettes de cinéma. Vu le nombre de sites internet et de forums à la gloire des psychopathes, tout était possible. Mais que son nouveau médecin, une spécialiste de la douleur qu'elle n'avait vue que 2 fois, connaisse le nom de cet assassin sans qu'on ait besoin de le lui dire, qu'elle possède même un lien familial avec lui. Voilà qui pour Didi sortait du domaine de la coïncidence pour entrer dans celui du paranormal. Didi ne prit pas sa chaise habituelle, mais resta debout, en face d'Adeline. Le bras et l'épaule blottis contre le mur et traversés d'une douleur lancinante. « Parlez-moi de votre père, » dit-elle. « Du docteur Adolphus Glenn, donc, » répondit Adeline. Didi leva les yeux au ciel et l'arrêta d'un geste. « D'accord, d'accord, j'ai compris le message. Vous considérez votre père adoptif comme votre véritable père. Il vous a élevé, il vous a aimé. » Il vous a donné tout ce dont une petite fille pouvait avoir besoin, y compris un bond de sortie du royaume des psychopathes. Maintenant que vous le dites, parlez-moi de Harry D. Le visage fermé de la psychiatre se détendit un peu. Elle soupira et se laissa aller dans son fauteuil, par avis de son sort, mais apparemment résignée. Je ne sais que ce que j'ai lu sur lui. Je n'étais qu'un bébé quand sa carrière criminelle a pris fin. D'après ce que j'ai compris, une de ses victimes, une jeune serveuse, avait réussi à lui échapper. Elle a couru jusqu'au commissariat. Le temps que les agents se mobilisent et viennent l'arrêter, Harry était mort de multiples entailles au poignet. Ma mère a fait une dépression et a été internée en hôpital psychiatrique pendant que les services d'aide à l'enfance se chargeaient de moi et de ma grande sœur. La police a passé les 6 semaines suivantes à démonter notre maison méthodiquement. Jusqu'à déterrer 2 cadavres sous le séjour et 6 autres sous l'atelier de menuiserie à l'arrière. Harry travaillait le bois, il avait une passion pour les outils. Il torturait ses victimes, dit Didi sur un ton neutre, reprenant une information que Phil venait de lui communiquer. Certaines ont mis des semaines à mourir. Mais ce n'est pas pour cette raison que son nom a été cité dans l'enquête sur ces 2 nouveaux meurtres, n'est-ce pas ? Non. Ce n'est pas pour cela.
L'assassin que vous cherchez écorche ses victimes, c'est ça? Le Boston Globe ne donne pas beaucoup de détails, mais compte tenu de l'intérêt que vous portez à Harry, je parierais qu'il retire la peau en longues lanières fines. Et que, pour être encore plus précise, vous n'avez pas retrouvé tous les lambeaux sur la scène de crime. Ce qui signifie que l'assassin en a emporté, en guise de trophée. Et avec ce que vous savez maintenant sur Harry Day, vous vous demandez si certains de ces lambeaux ne seraient pas conservés dans des flacons en verre, dans une solution formolée que Harry a mise au point précisément dans ce but. Didi renonça à se tenir debout et prit un siège. Elle tendit les mains devant elle, puis grimaça. Ce geste accompli sans y penser augmentait sa douleur. Sacrée coïncidence, il faut bien le reconnaître. Deux assassins qui, à 40 ans d'écart, s'amusent à prélever et conserver la chair de leurs victimes. Combien de femmes pensez-vous que Harry ait tué?
On lui attribue 8 victimes.
Les 8 cadavres retrouvés chez vous. Quel surnom utilisait la presse à l'époque? La maison de l'horreur, quelque chose comme ça?
Adeline haussa faiblement les épaules. Elle avait un air indifférent. Une expression que Didi avait déjà vue chez des gens qui prenaient leur distance avec l'abominable vérité sur un membre de leur famille dont ils ignoraient jusque-là le vrai visage. Ou chez des victimes qui racontaient avec conviction un incident dont on aurait juré qu'il était arrivé à quelqu'un d'autre plutôt qu'à elle-même.
Sa collection de trophées, continua Didi. J'ai cru comprendre que la police avait retrouvé 33 récipients contenant de la peau humaine macérée. Il les dissimulait sous le plancher du placard de la chambre. La psychiatre frémit. La première douzaine était des petits bocaux à conserve, dit Didi. Mais il semblerait qu'il ait affiné ses méthodes au fil du temps. Non seulement il a amélioré sa solution formulée, mais il est passé à des flacons en verre, de ceux qu'on emploie pour le parfum. Et il les étiquetait. Pas avec des noms, mais avec un détail quelconque qui devait avoir de l'importance pour lui. Couleur de cheveux, lieu, accessoires vestimentaires. Un identifiant unique mais complètement déshumanisant attribué à chaque spécimen de sa collection. La psychiatre frémit de nouveau.
Est-ce qu'on a fini par tous les identifier? Demanda-t-elle.
Il me semblait... J'avais lu il y a quelques années qu'un service spécialisé dans les affaires non résolues avait eu l'idée d'analyser les tissus conservés pour faire le rapprochement avec une liste de femmes portées disparues à la fin des années 60 en recueillant des échantillons d'ADN de leurs proches.
Didi n'était pas au courant, mais cela paraissait logique.
« Je l'ignore », répondit-elle avec franchise. Cela dit, ça expliquerait qu'on retrouve autant d'éléments concernant une affaire vieille de 40 ans dans le fichier VICAP. Il comptait aussi se pencher sur les affaires de viols non élucidés. Beaucoup de sadiques sexuels commencent par de simples agressions, n'est-ce pas? Avec le temps, leurs fantasmes pervers s'intensifient et, de voyeurs, ils deviennent violeurs et assassins. Ce qui signifie qu'au total, le nombre de victimes de Harry Day est sans doute beaucoup plus élevé que 8.
Les 8 sont seulement celles qu'il a gardées près de lui, reconnut Didi.
Pour pouvoir passer plus de temps avec elle, faillit-elle ajouter. Le meurtre en série est un crime qui va crescendo. Et comme à ce point de sa carrière, Harry Day devait être un prédateur endurci qui disposait de toute une panoplie d'outils, d'un atelier personnel et d'un emploi du temps souple, si une serveuse ne s'était pas échappée.
En face d'elle, Adeline murmura. Un jour ou l'autre, tous les enfants adoptés nourrissent des fantasmes sur l'identité réelle de leurs parents biologiques. Mes vrais parents étaient de sang royal, mais ils ont dû m'envoyer au loin à ma naissance pour me protéger d'une vilaine sorcière qui voulait s'emparer du royaume, ce genre de choses. Mon père adoptif était généticien, un homme bon, mais avec un cœur de scientifique. Disons simplement que la première fois que je lui ai demandé la vérité sur mes parents, il me l'a donnée. Et j'ai fait des cauchemars pendant les 10 années suivantes. Des rêves incroyablement saisissants, où je voyais ma peau s'ouvrir et un monstre en jaillir.
Votre père adoptif vous a recueilli quand vous étiez bébé?
J'avais 3 ans, et on venait de me diagnostiquer une analgésie congénitale. Il faisait partie de l'équipe médicale chargée de mon suivi. Vu les dangers inhérents à ma maladie,
Il lui a semblé qu'une famille d'accueil sans expérience ne pourrait pas répondre correctement à mes besoins. Alors il a fait en sorte de m'adopter lui-même.
Vous en avez eu de la chance.
Oui. Et votre grande sœur? Vous disiez que vous étiez deux. Elle ne souffrait pas d'une tare génétique, répondit simplement Adeline. Ce qui, dans son monde, voulait apparemment tout dire. Et votre mère biologique? Elle est morte 6 mois après Harry, sans avoir redit un seul mot. Elle a fait une dépression nerveuse et elle est restée dans un état catatonique. Vous croyez qu'elle était au courant des crimes de son mari? Harry avait enterré 2 cadavres dans la maison. Il avait éventré le plancher, il les avait déposés dans le vide sanitaire avant de les recouvrir de chaux. Vous n'allez pas me dire que ça ne sentait rien. Adeline secoua la tête, sans détacher le regard de la surface polie de son bureau impeccablement rangé. Je ne sais pas. Mon père adoptif avait compilé une histoire de mes 2 parents. On hérite de sa famille, et il voulait que je sois préparée. Les années passant, je me suis souvent penchée sur ses archives. On trouve beaucoup de documents sur Harry Day. Les voisins le décrivent comme un homme affable, intelligent, habile de ses mains. D'après tous les témoignages, mes parents sortaient peu. Mais si vous croisiez Harry dans la rue, il ne vous snobait pas et ne vous faisait pas dresser les cheveux sur la tête. Une des voisines, une veuve d'un certain âge, s'extasiait même sur ce jeune homme tellement aimable, qui lui avait réparé une fenêtre qui fuyait, qui lui avait donné un coup de main pour une porte qui grinçait. Il n'avait même pas accepté d'argent, juste une part de tourte aux pommes. Naturellement, c'est le genre d'anecdote qui rentre dans la légende après coup, le monstre au grand cœur. Mais pour être franche, je n'y crois pas. La vieille voisine affabulait? Non. Adeline leva les yeux, regarda Didi avec froideur. Harry construisait son image. C'est ce que font les grands criminels, non? Ils se camouflent. Je soupçonne que, cette semaine-là, il avait une malheureuse jeune fille enchaînée à son établi dans son atelier, donc il se pliait en 4 pour aider la voisine. Comme ça, au cas où la police serait venue fureter dans le quartier, tout le monde aurait eu droit à la même version. Quel gentil garçon, ce Harry Day. L'autre jour encore, il réparait ma fenêtre. Didi hocha la tête. Elle était déjà tombée sur des assassins à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, et elle était d'accord avec l'analyse d'Adeline. Les psychopathes ne sont jamais gentils. Ils s'entendent simplement très bien à donner le change quand ils en ont besoin. Alors Didi insista. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur votre mère. Parce que je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? Je ne peux pas. Même mon père adoptif, pourtant chercheur émérite, n'a pu dénicher aucun renseignement sur elle. C'était un fantôme. Pas de famille, pas de passé. Avant de s'installer à Boston, elle vivait dans le Midwest. En tout cas, c'était ce qu'elle disait. Sur l'acte de mariage, son nom de jeune fille est Davis, ce qui est franchement trop banal pour permettre d'enquêter. Elle n'a jamais répondu à aucune question de la police, et même les voisins semblaient ne pas la connaître. Anne Davis a vécu comme une ombre, et elle est devenue un fantôme. Didi ne put réprimer un petit frisson. Ça prouve peut-être simplement qu'elle savait ce que faisait son mari, d'où la dépression nerveuse, culpabilité du survivant. Adeline haussa les épaules. C'est absurde. Vous le savez encore mieux que moi. Harry était un parfait psychopathe, et ce genre de prédateur est toujours le dominant dans une relation. Même si Anne était au courant, elle ne pouvait rien faire. C'était Harry qui commandait. Votre père, souligna Didi. L'expression d'Adeline ne changea pas d'un iota. Étant donné que je souffre d'une maladie génétique rare, personne ne connaît mieux que moi les pièges de l'hérédité. Cette idée intrigua Didi. Est-ce que Harry souffrait de la même maladie? Se peut-il qu'il ait lui aussi été insensible à la douleur? Non. L'analgésie congénitale est une maladie autosomique récessive. Autrement dit, il faut que les 2 parents soient porteurs de la mutation. Or, il y a moins de 50 cas répertoriés aux États-Unis et la moitié des enfants diagnostiqués meurent d'un coup de chaleur avant l'âge de 3 ans. Un cas comme le mien, qui suis devenu adulte et qui est encore pleinement l'usage de mes membres, je suis une exception, pas la règle. Comment s'explique ce taux de mortalité?
La mutation génétique provoque aussi une insensibilité à la chaleur, ce qui signifie que nous ne transpirons pas. C'est particulièrement dangereux pour les nourrissons et les jeunes enfants. Un après-midi d'été où il fait chaud, leur température peut atteindre des niveaux critiques sans qu'ils montrent le moindre signe de détresse. Le temps que les parents se précipitent à l'hôpital avec leur bébé amorphe, il est trop tard. Didi ne put s'empêcher de demander. « Alors, qu'est-ce que vous faites de vos étés ?»«
Je profite des joies de la climatisation. Je m'hydrate beaucoup. Et je prends ma température plusieurs fois par jour. Je ne peux pas me fier à mes sensations, commandant. Donc, je dois m'en remettre à des diagnostics externes pour savoir si mon corps va bien. »
« Melvin est utile, » murmura Didi.
« C'est certain. Je ne me suis jamais allongée sur une plage et je n'ai jamais marché au soleil de l'été.
Je n'entre même pas dans une douche sans consulter le thermomètre.
Quant à la plupart des activités sportives et autres programmes de remise en forme, dans mon cas, il serait dangereux de courir, nager, jouer au tennis ou faire des paniers. Je risquerais de m'exploser le genou, de me casser la cheville ou de me froisser l'épaule sans même m'en apercevoir. Ma santé exige une vigilance de chaque instant.